L'enseignement d'aujourd'hui est un enseignement assez technique qui relève de l'Esprit Saint, l'Esprit dans l'Ancien Testament. En fait, quand on regarde l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, il est l'une des trois personnes de la Trinité. On sait que la Trinité a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Quand on regarde l'Esprit, par exemple, de Marc 1, 11, on sait par exemple que lors de du baptême de Jésus-Christ, il y a une voix au ciel qui a parlé. Il y a une colombe qui est descendue symbolisant l'Esprit Saint. Donc les trois étaient là. Le Père a parlé, la colombe représentait l'Esprit Saint et le Fils était humainement présent. Donc dans Marc 1, verset 11, on a cette symbolique-là. Bon, même si toute la puissance du ministère du Saint-Esprit ne fut pas révélée au peuple avant le ministère de Jésus-Christ, on peut quand même considérer que l'Esprit de Dieu était déjà là et on a des éléments très nombreux qui montrent que l'Esprit de Dieu travaillait déjà avant Jésus-Christ. Quand on veut voir maintenant à quel moment vraiment il s'est répandu, c'est après qu'il a parti du ministère de Jésus-Christ, pendant son ministère et pratiquement plus tard à la Pentecôte. La Pentecôte, on en parle dans Actes 2. On reviendra là-dessus. Mais on va rentrer d'abord dans les passages de l'Ancien Testament qui mentionnent l'œuvre de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Donc, dans cet enseignement, nous allons examiner, l'Ancien Testament au sujet, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. D'abord, il faudrait qu'on tombe d'accord sur la terminologie. En principe, quand on veut développer un sujet, il faudrait qu'on ait les définitions. Parce que quand on parle d'Esprit Saint, il y a une origine, ou de Saint-Esprit, il y a une origine. L'origine est un mot hébreu. En hébreu, on dit « roi » et « esprit ». C'est un mot que l'on traduit par « vent » ou « souffle ». Donc, « roi » veut dire « esprit ».« Roi », comme vous avez entendu, « R-O-U-A-P » ou « souffle ». Donc, ainsi les références... dans l'Ancien Testament, parle du souffle. Bon, je voulais utiliser un terme, mais j'ai préféré dire dans l'Ancien Testament. Parce que quand on parle du Nouveau Testament, vous entendez référence néo-testamentaire. Alors que quand on dit d'Ancien Testament, on dit vétéro-testamentaire. Donc, j'ai préféré d'abord dire Ancien Testament avant de revenir sur les termes techniques. Pour que les gens ne sortent pas les yeux. C'est le père qui a recommencé à la grammologie. Donc, c'est ce que ça signifie. Littéralement, vent, souffle. On commence par regarder, n'est-ce pas, Genèse 2, le verset 7. On peut lire Genèse 2, le verset 7. On peut aussi lire Ézéchiel 37, le verset 9 à 10. Genèse 2, le verset 7. Ézéchiel 37, le verset 9 à 10. Et là-dedans, le verset 14. Pour que les uns et les autres voient que la notion de souffle et de vent effectivement biblique par rapport à l'Esprit de Dieu. Ne dites pas que vous avez cherché Genèse.
Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen.
Amen. Quand on prend Ézéchiel 37, le verset 9 à 10, qu'est-ce qu'on a? Ézéchiel est un prophète, ça fait partie des derniers livres de l'Ancien Testament. Et les derniers livres de l'Ancien Testament, sont les prophètes. Ézéchiel 37, le verset 9 à 10, ainsi que le verset 14. Oui.
Ézéchiel 37, le verset 9 à 10. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, esprit, vienne des quatre vents, souffle sur ses morts, et qu'ils reviennent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Verset 14. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous établirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi. Dis l'Éternel. Amen.
Amen.
Vous remarquez que quand on parle de l'Ancien Testament et quand on parle de l'Esprit de Dieu, la notion de souffle et de vent est utilisée. Rentrons maintenant dans l'œuvre du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. La Bible apporte le fait que dans l'Ancien Testament, l'Esprit était l'œuvre, en fait, à l'œuvre de diverses manières. Donc, il agitait, il travaillait de plein de façons. Première façon, c'est que le Saint-Esprit a participé à la création. Quand vous verrez le deuxième verset de la Bible, le deuxième verset à Bible, c'est quoi? C'est Genèse 1, verset 2. Le premier verset à Bible, c'est Genèse 1, verset 1. Le deuxième verset de la Bible, déjà, déclare que l'Esprit se mouvait au-dessus de l'eau. C'est Genèse 1, verset 2. On a lu ça ici la dernière fois, je veux qu'on passe. Vous notez seulement en référence. Préparant ainsi la voie à la parole créatrice de Dieu qui devait former ce monde. La parole de Dieu, c'est-à-dire la deuxième personne de la Trinité. L'Esprit se mouvait. Et après, l'Esprit parle. Première personne, l'Esprit. Deuxième personne, la parole. Tout a été fait par cette parole. Rien n'a été fait sans elle. Quand la parole se fait, c'est troisième personne. On reviendra là-dessus, mais il faut déjà voir la symbolique. La Trinité n'est pas de la philosophie, c'est une réalité de vie. Et on voit donc, n'est-ce pas, à travers cela que l'Esprit Saint ne peut pas être banalisé. Il était là dès le départ. Il fait partie des agents actifs du processus de création. Donc, l'Esprit est donc lui aussi acteur de la vie. Lorsque Dieu créa Adam, c'est sans aucun doute son Esprit qu'il donna au premier homme, le souffle de vie. Lisez un peu Genèse 2, verset 7. Vous lisez aussi Job 27, verset 3. Genèse 2, verset 7. Job 27, verset 3.
Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen.
Amen. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Ce souffle de vie, c'est quoi? C'est l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a été soufflé. C'est pourquoi quand on a compris cela, on sait que notre corps ne nous appartient pas. Il appartient à Dieu. Donc, ce ne sont pas des choses qu'on doit traiter au hasard. On les traite ainsi, on a les enseignements spéciaux pour que les uns et les autres soient à l'aise et comprennent cela. On aura un autre enseignement qui nous permettra de travailler spécifiquement sur Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Et vous verrez que, de toute façon, Jésus-Christ réellement, en tant qu'être vivant, acteur, présent, n'apparaît pas au Nouveau Testament. Il est là déjà depuis. Là, j'ai eu un passage où il dit clairement qu'avant Abraham, je suis. Donc, on reviendra là-dessus. Alors, le Saint-Esprit continue non seulement à donner la vie, mais également à soutenir la création. On peut lire le fait que le Saint-Esprit soutient la création dans Job 33, verset 4, et le psaume 104, verset 30. Job 33, verset 4, psaume 104, verset 30. Vous pouvez lire les deux passages.
Job 33, le verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime.
L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc, l'Esprit Saint participe à la création et entretient la création. Il participe à la vie et entretient la vie. Que dit Job, psaume 104, le verset 30?
Psaume 104 au verset 30, il est écrit: Tu envoies ton souffle, ils sont créés et tu renouvelles la face de la terre. Amen.
Amen. Deuxième compartiment de l'action de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est monté, il s'est montré particulièrement actif dans la communication du message de Dieu à son peuple. C'est lui, par exemple, qui a instruit les Israélites dans le désert. On peut lire, toi jeune fille, Néhémie 9, trouve Néhémie 9, verset 20. C'est lui qui a instruit les Israélites dans le désert, Néhémie 9, verset 20. C'est par lui que les psalmistes d'Israël ont chanté leur cantique.
Néhémie 9, verset 20. Tu leur donna ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Amen.
Amen. Lisons maintenant ce qui est dans 2 Samuel 23, le verset 2. Parce que certains ne réalisent pas que tout ce qui est fait par les prophètes est inspiré directement par l'Esprit Saint, qui est dans un esprit très actif. C'est lui-même qui est derrière les psaumes de David. Il faut bien comprendre cela. Ce n'est pas par l'intelligence que David a écrit les psaumes. Ce n'est pas par l'intelligence humaine que David a écrit les psaumes, mais plutôt par l'intelligence de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, afin d'aider les générations présentes et futures à entretenir leur relation avec Jésus-Christ et avec le Dieu créateur. 2 Samuel 23, le verset 2.
2 Samuel 23, verset 2. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Amen.
Amen. L'Esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma langue. Interprétation. Dieu m'utilise, je suis un instrument pour Dieu. Je suis un instrument que Dieu utilise pour parler aux autres. Est-ce que ça signifie? Et qui m'utilise, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de Dieu. Maintenant, de même, sous l'inspiration du Saint-Esprit, les prophètes ont proclamé la parole de Dieu au peuple. Là, on va avoir beaucoup de références. On ne va pas lire ça, vous prenez les références. Nombre 11, 29. Nombre 11, 29. 1 Samuel 10, verset 5 à 6. Nombre 11, 29. 1 Samuel 10, verset 5 à 6. 2 Chroniques 20, 14. 2 Chroniques 20, 14. Ésaïe 61, le verset 1 à 3. Selon Ézéchiel, l'une des preuves qu'un homme était faux prophète était qu'il suivait son propre cœur, avant et non l'Esprit de Dieu. Avant d'aller au niveau d'Ézéchiel, lisons un peu ensemble Ésaïe 61, verset 1 à 3. Cela va vous rappeler quelque chose. Quand les prophètes, Dieu utilise les prophètes pour parler à son peuple. Ésaïe 61, verset 1 à 3. Qu'est-ce qu'il écrit dedans? Micro pour elle, s'il vous plaît.
Ésaïe 61, verset 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébènes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen.
Amen. C'est ce passage que Jésus-Christ va lire à Nazareth. Parce que Ésaïe passe 600 ans avant Jésus-Christ, annonce l'arrivée de Jésus-Christ. C'est quand Jésus-Christ lit ce passage qu'il dit que ce passage de la parole des Écritures est accompli. Ésaïe a annoncé, il fait partie des disciples prophètes qui annoncent l'arrivée de Jésus-Christ. Bien entendu, ce n'est pas avec son intelligence qu'il pouvait faire ça. C'était tout simplement que l'Esprit Saint l'utilisait pour annoncer les choses futures au peuple, le libérateur qui devait arriver. Donc, c'est un passage parmi tant d'autres. Ézéchiel avait déjà réfléchi sur la question des faux prophètes, toujours grâce à l'Esprit Saint. Il savait qu'un vrai prophète n'est pas quelqu'un qui fait les choses selon son propre cœur, mais il fait les choses selon l'Esprit de Dieu. La question est déjà abordée dans l'Ancien Testament. Parce que la question existe déjà. Lisez un peu ce qui est écrit dans Ézéchiel 13, verset 2 à 3. Ézéchiel 13, verset 2 à 3.
Ézéchiel 13, verset 2 à 3. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent, et dis à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien. Amen.
Amen. Donc, Dieu voit qu'il y a des gens qui sont prophètes. D'abord, ils sont prophètes, on ne sait pas comment. Et puis, ils disent les choses avec leur propre cœur. Il envoie le message par un vrai prophète. Que malheur à ceux qui font les choses selon leur propre cœur. Ils sont des insensés. Malheur parce que le châtiment divin les guette. Ils ne se repentent pas. Alors, il faudra aussi remarquer que l'Esprit de Dieu pouvait fort bien venir sur un homme qui n'avait pas juste une relation avec Dieu, n'avait pas une bonne relation avec Dieu, parce que c'est aussi une chose possible. Lorsque vous êtes un croyant, vous comprenez la marche avec Dieu, il faut faire attention. C'est vrai dans l'Ancien Testament, c'est vrai dans le Nouveau Testament en réalité. Et c'est vrai aujourd'hui. Vous vous rappelez du problème que certains apôtres ont eu, les disciples de Jésus-Christ, qui sont allés en mission d'évangélisation, guérison, délivrance, ils ont trouvé quelqu'un qui traitait les malades. Mais, il a dit qu'en dehors du fait que Jésus-Christ était là, il n'y avait pas d'autres personnes que Dieu utilisait. Dieu a toujours eu des gens qui l'utilisent. Que la forme vous plaise ou pas. Même parmi les athées. Enfin, ce que vous qualifiez d'athées. Il y a des gens que Dieu utilise. Même parmi ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Mais il faut avoir un peu de recul, un peu de discernement, un peu de bon sens, un peu de mesure pour faire attention à ce genre de choses. Dieu peut utiliser quelqu'un. Je vous ai déjà dit ici, je pense que c'est mais Dieu peut envoyer un message sur toi par un fou. Tu passes. Je vous parle des cas particuliers qui sont arrivés aux gens. Le fou là te parle à l'instant où tu es en train de passer. Ça ne dure pas 10 secondes. Dieu l'utilise pour te transmettre un message précis, ponctuel et même urgent. Tu vas dire que mais, le fou n'a pas besoin de la faire dire. Elle a toute la folie qui est là, il mange toutes les mauvaises choses là. Pourquoi le fou peut me parler? C'est quoi? On t'a dit que c'est la philo. Dieu a toujours fait ça. Il est le maître du temps et des circonstances. C'est lui qui décide du comment, du pourquoi, de où, de quelle méthodologie pour résoudre un problème. Parce que son souci est toujours de résoudre les problèmes de ses enfants. Si son enfant est dans un égarement, il faut utiliser toute personne susceptible de transmettre de l'état. Beaucoup de gens ici dehors, Dieu leur parle à longueur de journée, ils refusent d'écouter. Il y en a qui commencent quand même à faire attention en disant que vraiment, envoyez. C'est ce que tu dis là. Comment il a dit au moins 20 fois. Hein? Les autres qui disaient là, comment ils ne s'appelaient pas envoyer. Il ne mérite pas d'être écouté. Faut faire attention. Faut faire attention à ce qu'on vous dit. Faut écouter. Pour que Dieu utilise quelqu'un en ta faveur, la personne n'a pas à être un saint. Ou une sainte. Et quand tu vas regarder comme ça, tu vas dire, oh, Sainte Marie. Et ce sont vos saints, non? Il y a les Saintes Marie. C'est bien. J'ai déjà eu la vie de cette situation. C'est un monsieur, un homme d'à peu près 50 ans là-bas en route, lui parle de moi. Et l'homme là voulait juste le motiver à travailler beaucoup sur mes dossiers. En plein jour, en plein 16 heures, dans un grand carrefour. Il dit que le grand-père qu'on appelle Guy Parfait Songer, quand il fait ces choses, peut-être ça va être sérieux. Il réplique en disant que comment tu te dis grand-père? Guy Parfait pourrait être mon fils. Il dit c'est un grand-père. Le monsieur là m'a cherché, il tremblait de tout son être comme ça. Il me dit, c'est qui? Il dit que je ne comprends pas de quoi tu parles. Il dit qu'un inconnu m'a abordé. Il m'a dit que quand je traite tes affaires, je dois traiter ça avec le plus grand sérieux. Et il dit que tu es un grand père. J'ai réfléchi en disant que grand père comment? À mon âge, je pourrais avoir un enfant de l'âge du papa. Il dit, c'est un grand père. Comme ça, tu vas trouver les choses physiquement. Dieu utilise tellement d'astuces. Tu peux être, même dans la ligne secte, Dieu veut te faire sortir à la secte. Mais il va trouver les moyens les plus inattendus pour que tu sortes de là. Tu peux même être un sorcier, pratiquant, engagé, corps et âme, comme disaient les autres. Quand Dieu dit que tu dois sortir à la sorcellerie, il va utiliser les moyens les plus inattendus Donc ce n'est pas nécessairement qu'il va chercher les personnes qui sont les plus représentatives de la sainteté à ses yeux. Dieu peut utiliser. Il peut utiliser quelqu'un qui n'a même pas une relation juste avec lui. C'était au passage cela. Parfois vos parents vous parlent, frères et sœurs, mais vous estimez qu'ils vous dérangent. Parfois c'est une copine ou un voisin, vous estimez qu'on vous dérange. Et pourtant c'est Dieu qui lui a dit, dis-lui telle chose. Moi même si c'est en train de vous parler, j'ai été champion de ne pas entendre que c'est Dieu qui me parle. Donc, vous avez remarqué que moi je parle toujours en connaissance de cause. Voilà. Donc il est très important que vous sachiez cela, et ça va être très important pour que vous compreniez que Dieu utilise tout pour transmettre un message vrai au peuple de Dieu. Cela est répertorié dans l'esprit de Nombre 24, le verset 2. Troisième élément de la manière dont l'Esprit Saint agit dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, tous les conducteurs spirituels du peuple de Dieu étaient des hommes qui tiraient leur force de l'Esprit de Dieu. Moïse en est un bon exemple. Moïse est même l'un des exemples, puisque Moïse était, il avait une mission très spéciale. Donc, c'est un exemple très facile. Il ne faisait qu'un avec l'Esprit de Dieu. Ce qui lui permettait de partager le sentiment de Dieu, ainsi de souffrir quand Dieu souffre, et de ressentir la même colère que Dieu. Quand Dieu ressentait une certaine colère à l'égard du péché. C'est-à-dire que Moïse était capable de réagir exactement comme Dieu aurait réagi en une circonstance. Ses sentiments étaient les sentiments de Dieu. Il était rempli de l'Esprit Saint. Ce n'est pas que quelqu'un a le don de prophétie, si tu suis même encore, si tu essayes, marche un peu tombé, marche encore un peu tombé, écoute, je suis rempli de l'Esprit Saint. Pause, s'il te plaît, reste comme ça. Entre Moïse qui était rempli de l'Esprit Saint, et toi, c'est que le don de prophétie est ému de temps à autre, là. Tu ne vas pas dire que toi aussi, tu es rempli de l'Esprit Saint. Non, je commence par Moïse, ça a été ému seulement. En tant que Dieu est passé par là. Et puis, silence radio. Entre les interférences, les attaques, les confusions de pensée, et tout ça. Après, on va dire ça, je commence par Moïse, parce que si on commence par Moïse, personne ne va pas comprendre. On dit que Jésus-Christ était rempli de l'Esprit Saint. L'apôtre Paul était rempli de l'Esprit Saint. Pierre était rempli de l'Esprit Saint. L'envoyé est rempli de l'Esprit Saint. Gros aussi, qui est rempli de l'Esprit Saint. Et c'est de nous faire souffrir. L'Esprit Saint te parle. Il a du mal à se stabiliser. L'une des choses qui montre qu'il a du mal à se stabiliser dans toi, c'est que tu souffres sans qu'il est là. Vous n'êtes pas encore au stade ami-ami où sa présence ne te perturbe pas. Ta métamorphose n'est pas encore finie. Mais il faut que personne s'occupe de vous dire ça. Sinon, vous allez commencer à gonfler comme le tapioca. Alors, vous ne savez pas qu'il y a un gros travail derrière. Il y a tout un processus de métamorphose. Donc, faites attention. Pour arriver à avoir un tel niveau de connexion, parce que moi, j'ai été l'exemple que ce que le Père me rappelle ça. Quand vous avez déjà une certaine relation avec l'Esprit Saint, vous êtes capable de ressentir ce que lui pense sur un sujet précis. Parce qu'il est en vous. Et il commence donc à vous transmettre ses propres émotions, ses propres sentiments sur les situations. Et si vous êtes loin de lui, vous ne ressentez rien. Je vais vous donner un secret tout de suite. Pour quelqu'un qui est vraiment dans la prière, dans les louanges, l'adoration, l'exercice de la parole, etc., la pratique de la justice, le respect des préceptes divins, l'un des indicateurs majeurs pour ressentir ce que l'Esprit Saint pense sur un sujet, c'est de ressentir si vous êtes d'accord avec. C'est très simple. Si par exemple je veux prendre cette idée, je sens une résistance en moi, c'est que Dieu ne veut pas que je prenne cette idée. Je n'ai pas besoin de savoir pourquoi. Vous comprenez ce que vous dites? Je veux voyager. Je sens que je veux voyager. Même si on comprend que Dieu dit que voyage, tu vas comprendre après là-bas. Moi, il m'a déjà fait ça plusieurs fois. Parce que j'ai appris à reconnaître quand il est d'accord, quand il n'est pas d'accord, c'est un tas de choses. On bien entendu, si tu n'es pas concentré, tu peux aussi te tromper. Tu peux confondre tes propres convoitises et dire que comme c'est délicieux là, je dis que même Dieu, tu veux ça, hein. Comme je veux la grâce. Qui t'a dit que l'Esprit Saint veut la grâce au chocolat que tu as visé là-bas? Mais, pour nous qui avons le feu et la lumière, effectivement, on peut arriver à ce stade où on ressent ses émotions, on ressent ses désaccords. On a des situations simples. J'ai eu la grâce de m'énerver ici une seule fois. Je m'énerve jamais. Tout le monde est témoin que je m'énerve jamais. Une seule fois, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est juste exprimer l'énervement du Père. Donc, ce sont des situations que vous pouvez dire. Il y a des situations devant lesquelles vous réagissez. C'est ce qu'on appelle une colère sainte. Une colère sainte. Ce n'est pas votre colère, c'est la colère de l'Esprit Saint. C'est différent de votre colère que Dieu ne veut pas accepter. Et qu'il ne peut même pas accepter. Mais si c'est l'Esprit Saint qui se fâche en vous, par rapport à quelqu'un, éloignez-vous de la personne-là. Éloignez-vous. Le dossier-là n'est pas bon. Et si ici dehors, tous les indicateurs te montrent que le gars-là sort de là, laisse-le oublier. Tu ne veux pas. Quand tu ne veux pas, l'Esprit Saint commence à te mettre en colère chaque fois qu'il appelle. Chaque fois que tu penses même à lui. Quand il est là, alors c'est grave. Quand ton humeur se gâte, elle ne veut pas comprendre. C'est Dieu qui est en train de se sacrifier comme ça. Beaucoup de chidons, va ailleurs. Donc, il faut comprendre les choses comme ça. Donc, ne voyez pas seulement dans le passé que Moïse avait les émotions, quelqu'un capable de ressentir les émotions. Non, de Dieu, non. Vous-même, puisque l'Esprit Saint est disponible, on va revenir là-dessus, vous allez voir, il est disponible, c'est déjà écrit. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, c'est écrit, c'est imprévu. Apprenez à ressentir les émotions de Dieu. Quand la chorale chante là, que vous ressentez la joie vous envahir, vous résistez, pourquoi? C'est la joie de l'Esprit Saint qui est en vous. Quand Christian commence un souvent, il y a des gens ici qui savent allumer mon cœur. Pam! C'est ça. Ils font ça instantanément. Si Michael commence à chanter, même si je suis couché là-bas dans la maison, que je suis là, je suis en train de partir, il y a. Quand il t'entend seulement sa voix, il dit, mon fils, j'ai recommencé les vraies choses. Dès que Christian touche le piano, il dit que, il y a une sensation particulière. Bon, la fille là que on voit pas. Papa est où? Il y a aussi elle, papa, elle aime quand elle entend, bam, elle dit, oh là là, cette voix est unique au milieu des autres. Donc, c'est la joie de l'Esprit Saint que vous ressentez. Il y a des choses, ça, elles sont belles. Elles ne sont pas belles seulement pour vous. Vous croyez que Dieu ne sait pas ce qui est beau. Le bien est bien. Vous-même, quand vous avez un mauvais goût, il faut vous poser des questions. Il faut demander si Dieu est avec vous. Quelqu'un qui peut avoir l'Esprit Saint et qui va offrir un macala pour commander seulement les bains pour Pierre, il faut quand même se poser des questions sur sa relation avec Dieu. Le beignet est tout rond en temps normal, il est la mis dedans. Tout doux. Toi tu as accepté, on vient réclamer seulement les beignets dans la fabrication à rater. Il faut quand même se poser des questions sur ta santé. Tu payes pour le mauvais service. Tu viens au père, hey, ma mère, je vais te voir un beignet aussi, c'est-à-dire, je paye pour le mauvais service, je paye pour les beignets dans la fabrication à rater. Donc, je ressemble que c'est un mauvais. L'Esprit Saint peut cracher les beignets là. Hein. Donc, vous voyez les gens d'infinité que vous avez développé, vous dites que vous m'avez Dieu. Il y a des gens ici, c'est pourquoi je m'accuse les gens, parce que je les vois derrière sur leur face. Ils ne connaissent pas le bon pain. Le bon pain, ils ne savent pas, parce que c'est le pain pour eux, ne doit pas avoir de mie. Donc, ils prennent le pain comme ça, ça doit être transparent, ils voient le soleil de l'autre côté. Quand vous allez arriver à un certain niveau dans la relation avec l'Esprit Saint, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui n'acceptent pas ce que tu manges. Oui, mais c'est ça. Si tu es capable de ressentir ces émotions, tu vas dire comme il a dit à ma fille un jour, tu commences à te faire te manger à mon frère. Mais tu crois que c'est ton corps, tu dis que tu réalises qu'il est là. Que comment tu me nourris mal comme ça? Tu t'exclames pour dire que comment lui il peut dire que c'est moi quand je mange, comment c'est lui qui mange? Il te dit que je suis dedans. Je suis en toi. Qui t'a dit que le corps là t'appartient? Donc quand tu t'habilles une japalandoukoulou, ça aussi, tu te dis que mais comment tu m'habilles mal comme ça? Donc quelque chose là vous devez les connaître, ça va vous aider. Attendez, vous n'avez pas encore compris l'affaire là. Ceux qui sont dans la marche avec Dieu arrivent toujours à ce niveau. C'est que Dieu s'occupe de petits détails. Je dis petits. La taille des ongles, le temps de ceci, le temps de ceci, les sous-vêtements, etc., ta coiffure, tout ça. Les femmes ne savent pas. Hein. Moi, je vois des femmes ici un jour, qui quand elles s'habillent, quand elles vont mettre un mauvais string, les sous-vêtements, elles disent qu'enlève le string, la vie. Comment tu m'habilles mal comme ça? Quand même, tu vois que ça correspond. Change de tenue. Mais c'est tant que vous n'êtes pas arrivé à cette tenue, vous ne comprenez pas que Dieu n'est pas loin de vous. C'est ça, c'est qu'il y a une fusion. Celui qui reçoit l'Esprit Saint, c'est quoi? Il reçoit l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu se connecte à son esprit. Il y a dans une espèce, un niveau de communication. Il y a l'intuition qui grandit. Et il y a donc la conscience. On est dans l'esprit. Hein? C'est quoi la conscience? C'est la conscience de Dieu en toi. Blague alors. Je vous donne les références en face. J'aime donner des exemples contemporains. Comme ça, vous allez lire la Bible, la vous allez comprendre. Prenez Exode 32, le verset 19, qui parle de la colère de Moïse, ça c'est une situation, mais c'est la colère de Dieu. La colère de Moïse face au péché. Donc lorsque, par obéissance, Moïse a choisi 70 anciens chargés, n'est-ce pas, de l'aider à diriger le peuple de Dieu, il a pris de l'esprit qui était sur lui. Et il a déposé sur les anciens. Alors, ça c'est quelque chose de très intéressant, parce qu'on vous a déjà donné un enseignement là-dessus, sommairement. Pour que Moïse prenne sur lui, ou déposer sur les anciens, ceci n'est possible que parce que Moïse est un réservoir d'onction. Vous comprenez ce que je dis là? Voilà, dans un ministère, vous avez un berger. Si c'est un prophète ou un apôtre, ce sont des réservoirs d'onction. Vos dons sont tirés de lui. Le système est rempli chez lui. Tout ce qui s'allume chez vous, en fait, est déjà chez lui. C'est ça le processus. Sinon, on va prendre nous. Le déclencheur, ce sera quoi? Que ça va passer par le manguier. Mais il faut bien un réservoir de proximité quelque part. Comme ça, Dieu prend, il met chez toi. Ça ne diminue en rien ce que lui a. Dieu prend, il met. Il est là, il est un réservoir pour ça. Le ministère doit grandir, vous devez grandir en Christ, et c'est à travers la relation avec le Saint. Donc, vous prenez Nombre 11, verset 16 à 17, qui explique comment ça s'est passé avec les 70 anciens qui devaient rester autour de Moïse, par le soutien de l'Esprit Saint, de l'Esprit de Dieu, qui avait été déposé chez eux aussi. De même, lorsque Josué a appelé, a succédé à Moïse, à la tête du peuple d'Israël, Dieu lui a fait savoir que l'Esprit serait sur lui. Ce n'est pas toi qui décides que l'Esprit est sur toi, c'est l'Esprit qui décide d'être sur toi. Si tu viens, tu commences à dire que pourquoi lui? Toi, tu sais qu'on t'a fabriqué comment? Ton programme, c'est quoi? Pourquoi Josué? Pourquoi Jean? Pourquoi Daniel? Dieu a décidé pour un ensemble de paramètres que tu ne connais pas. Tu ne sais pas quels sont les examens qu'on passe chez Dieu. Tu ne sais même pas ton identité chez Dieu. Tu ne sais même pas le plan qu'il a pour toi, etc. Donc tu n'as pas à discuter à la place de l'autre parce que chacun est mandaté selon le plan intime de Dieu et selon sa souveraineté à lui. Moïse s'en va. Dieu a déjà dit qu'elle est son remplaçant. Et a choisi Josué. Donc l'esprit d'autorité, de sagesse, de discernement, de puissance qui était chez Moïse est transféré chez Josué par rapport au mandat de Josué qui est très différent du mandat de Moïse. Moïse avait un mandat de délivrance d'un peuple. Les types d'onction, parce que là, si me sont permis d'utiliser le langage technique, les types d'onction dont Moïse avait besoin, Josué n'en a pas besoin. Josué a besoin d'onction pour le management et quelque chose pour les éléments. Moïse avait besoin d'onction de domination. D'un autre rang d'ailleurs. Avec les dimensions de matérialisation de la puissance. Les dimensions de gloire. Josué n'a pas les mêmes besoins de... Donc, ce n'est pas le même mandat. Mais c'est toujours l'Esprit de Dieu qui travaille. Si on dit que celui-ci prépare la paix. Après la fête, il faut gérer la maison. Quand tu dis qu'il faut qu'on te donne le dispositif qui est indispensable pour la préparation de la fête, comme ça, toi, tu vas faire la fête tous les jours. Mais est-ce que c'est le même sujet? Moïse devait être l'instrument humain, pour le dire comme ça, qui permet de sortir le peuple qui était en captivité depuis 420 ans. 420. En captivité en Égypte. Peuple d'Israël. Quand le peuple arrive maintenant à la porte de Canaan, la terre promise, Dieu montre la terre promise à Moïse. Il a vu à ce moment montrer. À cause d'une erreur que Moïse avait commise, ça lui a coûté cher. Il a dit qu'il n'entrera pas à Canaan. Il y a un même moment, j'ai oublié qu'un passage, le diable a voulu récupérer les ossements de Moïse. Il y a un ange qui est descendu là-bas à grande vitesse, qui a pour lui dire que donne, touch. Donc, c'est un mandat différent, mais c'est toujours le même esprit, c'est l'esprit de Dieu. La mission est différente. Quelqu'un qui a le don de prophétie n'a pas le même besoin que celui qui a le don de parler en langue, n'a pas le même besoin que celui qui a le don de sagesse, n'a pas le même besoin que celui qui a le don de guérison, n'a pas le même besoin que celui qui a le don de délivrance, etc., etc. Et même si vous avez tous ces dons, et que vous n'êtes pas berger, vous n'avez pas le même besoin que le berger. Donc, chacun se met bien à sa place. Il faut s'aligner sur ce que l'Esprit de Dieu veut que vous soyez. Donc, par rapport à cela, vous pouvez lire Nombre 27, le verset 18. Nombre 27, le verset 18.
Nombre 27, au verset 18. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Noun, homme en qui réside l'esprit, et tu poseras ta main sur lui. Amen.
L'Éternel dit à qui?
À Moïse.
Que prends Josué, et tu, tu poseras ta main sur lui. C'est pour faire quoi? Transfert d'onction. Bon, comme il y a les gens qui font la prostitution spirituelle ici, ils sont toujours en train de tout, c'est quand ça, Dieu appelle ça la prostitution, ce n'est pas mon invention. Ils sont toujours en train de chercher les hommes de Dieu plus puissants que les autres. Ça fait que, ils cherchent, non, peut-être que le prophète tel a plus de puissance que le prophète tel, que l'apôtre tel. On t'a dit que c'est ça, on t'a dit de travailler toi-même. Non, tu cherches le raccourci. S'il y a un prophète qui peut lever la main comme ça, il détruit tes adversaires plus vite que l'autre. Ça change quoi dans le problème de fond? Dieu a dit qu'il faut que tu travailles dans ta relation avec lui. Donc, il y a des gens qui sont dans ce genre de position, ils ne comprennent pas que ce n'est pas n'importe qui doit poser votre main sur vous. Hein. Oui, ça, que vous tendez la tête partout dans ce poste. Quand vous anéantissez sans savoir ce qui vous arrive, on ne doit pas, c'est pas n'importe qui doit faire l'imposition de main sur vous. Il y a des gens qui vont dans des séminaires, des croisades, ils viennent de là-bas avec comme principe premier, nouveauté désormais, repas nocturne, couche de nuit, poursuite nocturne. Ils viennent de la croisade, l'essentiel des manifestations post-croisade, c'est les poursuites nocturnes, les couches de nuit, etc. Ils restent dedans. On lui a imposé les mêmes. Qui a imposé les mêmes? Quelqu'un que le diable utilise, lui, il n'est pas au courant. Il y a des personnes qui, quand ils commencent à faire les délivrances, le démon lui demande que toi, tu penses même que tu es qui. C'est même pas toi qui étais à la femme du voisin hier. Donc, quand tu finis de boire les goulabs, là, tu rentras, les 33, non, mais même pas des choses qui arrivent souvent. Si tu n'es pas bien avec Dieu, que tu plais, là. Les démons vont aussi l'invisible, tu vas cacher quoi au démon. Il dit que, on a eu ça ici, moi je me rappelle quelqu'un qui était ici à l'époque, il a voulu faire une délivrance. Et demain il dit que ça tu n'as pas fini les vieilles, toi tu penses que tu vas venir me chasser. Tu as fini les vieilles. Le transfert d'onction, le transfert d'autorité que Moïse fait, sur instruction de Dieu, ce n'est pas une affaire qu'on fait comme ça. Bon, comme je cherche les puissants, je ne vais pas tendre ma tête aussi partout où il y a oui. Le fait est, oui, il faut qu'on me mette aussi la main sur la tête. Pour ramasser la malédiction. Et je vous parle comme ça parce que j'ai vu de tout en 2016. Chaque fois qu'on invitait quelqu'un et qu'il partait avec d'autres personnes. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Jésus est venu les partir à Elsa. N'importe qui est venu les partir. Il y a Elsa qui était ce gars-là. Tu m'as rempli l'audience que l'homme la maîtrise. Absolument, c'est l'idée. Ça fait que j'ai certains de mes enfants, quand ils arrivent là-bas, d'autres se cachent. On ne doit pas savoir que ils sont en dissident. Que c'est moi qui vais aller te chercher. Va où tu vas. C'est que le ministère ici, Dieu va tellement se glorifier que les gens vont revenir en courant. Même si c'est en étant en dans la honte la plus totale. Comme c'est pour faire que tu vas chercher les introductions que je me mets d'abord à genoux depuis le portail là-bas. On va voir que je me suis humilié. Je ne pourrais pas t'avoir avant. Vous ne me connaissez pas. Vous ne savez même pas ce qu'il y a ici. Vous les avez sorti plein de versions. Vous ne savez pas que j'avais aussi l'autre version là dans le ventre. On fait un transfert dans ce fait. C'est Dieu qui dit que pose la main sur l'autre. Parce que c'est que quand tu vas poser la main, il t'utilise. Toi qui es le réservoir d'onction. Toi qui es Dieu pour les hommes. Pour transférer l'esprit de Dieu chez lui. Voilà les conditions dans lesquelles l'imposition de main a son sens. Il faut avoir l'autorité de Dieu pour poser la main. Les autres donnent mal à cette partout que imposer la main, poser la main, poser la main. Il y a d'autres hommes qui sont plus forts. Pour apprécier l'envoyé, ils s'en vont chercher quelqu'un qui a un appel ce plan administratif N-4. Ils s'en vont consulter les pasteurs. Pasteur, il y a un gars là qu'on appelle l'envoyé. Tu peux voir si c'est vraiment Dieu qui l'a envoyé. Je parle de ce qu'on fait dans ce ministère. En dessous de l'envoyé du créateur, il y a les apôtres. C'est-à-dire, les apôtres d'abord, c'est le plus haut niveau. En dessous des apôtres, on trouve les prophètes. En dessous des prophètes, on a l'évangile. En dessous de l'évangile, c'est là où on trouve le pasteur. Mais c'est vrai que le pasteur a un sens sur la bonne route. Mais c'est là où les gens vont consulter le pasteur. Parce qu'il y a un gars là-bas qu'on appelle dit parfait tonguet. Je le trouve suspect, je vais souvent dans ces choses-là, mais il est possible qu'il puisse devenir franc-maçon, parce que le gars a grandi trop vite. Il doit avoir mis la main quelque part. Mais dis ça parce que vous avez reçu le message, vous n'avez pas voulu me dire, moi, est-ce qu'il faut recevoir le message, j'ai regardé aussi la vérité dans mon ventre. Les gens m'ont consulté. Le pasteur a dit, mais oui, moi-même j'ai vu. Ce gars est dangereux, il a changé de couleur devant mes yeux. Le problème que vous avez avec moi, c'est qu'on ne pouvait pas imaginer jusqu'à quel point Dieu me parle des choses qui sont dans vos vies, cachées là où vous croyez que je ne sais pas. Le commandement va être l'information. Dieu étant le plus grand commandeur, le roi des rois, il sait ce que c'est que la gestion de l'information. Dieu ne peut pas donner le commandement à quelqu'un qui ne donne pas les informations. J'ai les informations qui entrent dans mon esprit en tant que veille comme en tant de sommeil. Tiens, je ressens de tous les côtés. L'autre avait gardé ça dans mon ventre depuis 2 mois. C'est sorti aujourd'hui parce que l'enfermant a poussé par là-bas. Donc, c'est de tendre les têtes partout que bénis-moi, bénis-moi. Impose-moi les mêmes. Peut-être que tu as plus d'onction que mon père. L'ignorance, c'est terrible. Hein? Donc, je passais par là. Mais un jour, et ça va arriver ici. Quand le Seigneur va me dire, ce n'est pas loin, verse l'huile d'onction sur terre, sur terre, sur terre, je vais lever la main, il va caler ma main, parce qu'il dit que c'est lui qui ne verse pas. Il dit que le papa, quand tu arrêtes, il dit, ne verse pas, c'est toi qui as des soins consultés. J'ai dit, ok, j'ai compris. Il y a des gens bipolaires, tripolaires, quadripolaires, ils ont tellement de paix, de richesse. C'est un quintapolaire, tout ça. Mais c'est la prostitution. De la prostitution spirituelle. Et ça, ça montre que vous refusez de recevoir les enseignements fondationnels qui vous permettent d'être forgés. Ceux de l'investissement personnel dans la marche avec Dieu, de l'autonomie dans la marche avec l'Esprit Saint, de l'autonomie dans la relation à Christ. Vous attendez les bénisseurs. J'ai appris un jour que l'un des bénisseurs a dragué une de mes filles spirituelles et est parti de là-bas en courant.
Mais c'est vous qui allez vous livrer, non? Et quand vous livrez, les gens ont les yeux ouverts, ils commencent à voir les choses. Que si...
Comme ça que vous allez ramasser les problèmes alors que vous étiez en paix ici. Comment?
C'est
dû
pour le transfert.
C'est dû.
On est parti du
transfert. Vous ne saviez pas que je savais. J'ai alors parlé. Donc, en fait, Moïse a fait cela. Le même esprit est descendu sur Gédéon. Le même esprit sur David. Quand vous prenez l'esprit de 1 Samuel 16, verset 13, vous voyez que David a été saisi. Le roi David. David était roi et prophète. Enseignement qui commence à être délicieux quand il regarde le temps. Je vais d'abord faire le temps. David était roi et prophète. David ne gouvernait pas comme un homme ordinaire. David était toujours en permanence en train de se préoccuper de savoir comment il faut faire les choses selon l'esprit de Dieu. Et Dieu a aimé David. C'est que vraiment, quand vous regardez les hommes, Dieu a aimé David à cause de ce que. Tu avais dit comme, comment David avait organisé un maître. Comment il... Tu sais que David, l'alliance de David avec Dieu, c'était quoi? Et quel est le niveau d'engagement, de don de soi que David avait dans la marche de Dieu? Et quel est le niveau de compréhension que David avait dans la marche de Dieu? David avait donné tout son être dans le service à Dieu. Il s'en préoccupait. Quand il y avait un menace, il disait au père que si tu veux, tu ne finis pas le peuple, finis-moi. Regardez le niveau là. Maintenant, on va faire être là. Il dit que non, puis les autres, moi, je ne veux pas avoir la douleur. Et il dit que non. Vraiment, si moi, j'ai commis une erreur, ne fais du mal à personne d'autre à moi. Punis-moi. Donc, vraiment, vous ne pouvez pas imaginer. C'est pourquoi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Comment est-ce qu'on appelle Jésus-Christ fils de David? David passe combien de générations avant Jésus-Christ? Il n'est pas son grand-père, là. Il y a 15 à 17 générations entre David et Jésus-Christ. Mais regardez le niveau d'amour que Dieu avait pour David, pour que son fils, on l'appelle fils de David. Mais pourquoi il était si important? Parce que l'Esprit Saint l'utilisait pleinement. Et il savait quoi ça? C'est quand il faut danser pour Dieu, il danse sur son être. Il se roule par terre, il n'a pas de problème. Il fait le bal à terre. On ne cherche pas les exemples, laisse comme ça. C'est l'Esprit de Dieu qui lui transmettait cette joie. Alors, vous avez l'exemple de David avec 1 Samuel 16, verset 13. Vous avez Zorobabel, Zacharie 4, 3. Autrement dit, l'une des qualifications requises pour être un conducteur spirituel dans l'Ancien Testament, était de jouir de la présence de l'Esprit de Dieu. Sinon, comment est-ce que ce serait impossible? L'une des qualifications dans l'Ancien Testament pour être un conducteur spirituel, c'est que vous jouissez de l'Esprit de Dieu. C'est après Jésus que qu'on appelle l'Esprit Saint, mais c'était déjà l'Esprit de Dieu. Le souffle, le vent, le feu, etc. Quatrième dimension de l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu pouvait également descendre sur des individus afin de les équiper en vue d'un service particulier. Et là, c'est très intéressant. On voit ça dans l'ancien temps. On voit ça ici. Dans l'ancien temps, c'est-à-dire à l'époque de Moïse, il y a quelque chose à vous montrer, c'est vraiment intéressant. Nous trouvons l'un des exemples les plus remarquables de cette réalité en la personne de Joseph, que Dieu a revêtu de son esprit et qui puisse intégrer avec efficacité le gouvernement de Pharaon. Vous vous rappelez de Joseph que ses frères avaient vendu, non? Il s'en va là-bas, il est dans les chaînes, tout ça. Quand Dieu décide maintenant, c'est fini. Tu dois mettre la lumière. Le pharaon a des visions, il n'y a pas d'explication. Il n'y a que Joseph, à qui l'Esprit de Dieu a parlé, a donné la vraie signification. Récompense sous le contrôle de l'Esprit Saint. Joseph est nommé gouverneur d'Égypte. Il a le commandement, il est le numéro 2 en Égypte. Donc c'est un exemple très intéressant. Vous trouvez cet exemple, vous prenez Genèse 41, le verset 38. Vous en faites pas, on va pas beaucoup lire là-bas aujourd'hui parce que je veux plus faire les démonstrations. Mais prenez les références. Nous avons également Bethalel et Oaliab que Dieu a rempli son esprit, les rendant ainsi capables d'exécuter toutes sortes d'ouvrages en relation à la construction et la décoration du tabernacle. Ils ont également été enseignés. Ils ont pu enseigner aux autres. On est en train de parler de quelques autres. Moïse a des collaborateurs. Il y a des choses à faire pour Dieu. Et l'Esprit Saint descend sur certaines personnes pour les spécialiser. Il y a des gens qui deviennent forts pour fabriquer et se traiter le bois, d'autres deviennent des ingénieurs, certains savent faire les briques, etc., etc. Il faut voir ça dans cet esprit-là. Donc, pour que vous trouviez un référent qui vous permet de voir comment l'Esprit Saint se spécialise, exemple, même sur les choses matérielles, le travail. Prenez Exode 31, le verset 1 à 11. Exode 31, le verset 1 à 11. Et Exode 35, le verset 30 à 35. Exode 31, le verset 1 à 11. Exode 35, le verset 30 à 35. Pour cet homme, le fait d'être rempli du Saint-Esprit n'avait pas exactement la même signification que le baptême de l'Esprit que l'on découvre dans le Nouveau Testament. Oui. Bon à savoir, le baptême de l'Esprit dans le Nouveau Testament est un baptême lié à la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas le fait que les gens soient saisis du Saint-Esprit comme dans l'Ancienne Alliance. Ce n'est pas la même signification, ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas la même symbolique, ce n'est même pas le même type de puissance, ce n'est même pas le même type de mandat. L'Ancienne Alliance est celle qu'a fondé Moïse. La Nouvelle Alliance est celle qu'a fondé Jésus-Christ. C'est bon de savoir ça. Non, vous avez dit que l'Esprit Saint est la même quantité et les mêmes travaux dans l'Ancien et le Nouveau Testament, les mêmes mandats, les mêmes caractéristiques. Non. Les mandats sont différents, les alliances sont différentes, donc au niveau même opérationnel, c'est différent. Je vous dis quelque chose que certains doivent traîner. À cause de la Nouvelle Alliance, les prophètes après Jésus-Christ peuvent être plus puissants que ce que Jésus-Christ lui-même a montré. Vous comprenez ce que je dis là? Parce que Jésus-Christ a ouvert une alliance qui, parfait, améliore la relation à Dieu, la perfectionne au point où l'homme qui fait Dieu peut aller plus loin que tout ce que le Fils de Dieu lui-même a montré comme exemple. Jésus-Christ est parmi les multiples que Jésus-Christ est venu faire, il est venu perfectionner le service à Dieu. Puisqu'il a amené de la dimension matérielle à la dimension spirituelle, mais a amené dans la dimension spirituelle et à la dimension touche, les manifestations de puissance doivent être beaucoup plus importantes. Les miracles doivent être beaucoup plus importants. Et pour sceller cela dans la parole, il a dit que ceux qui croiront en lui feront comme lui et bien plus encore. Parce que les gens vont venir vous dire que, mais c'est pas possible. Comment Jésus-Christ a fait un truc? Lui, il vient, il fait même plus. Il faudrait dire que c'est normal, c'est ce qu'il avait dit, non? C'est ce que la parole dit. Si Jésus-Christ a marché sur l'eau, c'est que nous, on peut marcher sur l'eau. Après, on peut planer même comme si faire mal ou faire plus. Regardez un suivi qui est simple. Quel est le père spirituel d'Élisée? Je vais vous montrer quelque chose, parce que c'est normal, certains ne comprennent pas. Je vais évoluer, je vais vous montrer trois cas. Élie a opéré sept grands miracles. Son fils a demandé la double portion. Son fils lui disait, Élisée a offert 13 miracles. Le 14e miracle, Élisée l'a accompli étant déjà mort. Donc on lance le corps du roi, et le corps du roi touche le squelette. Le roi l'a ressuscité. Jésus a opéré des miracles. Vous avez entendu que Jésus-Christ faisait que si on frotte seulement le linge subi, les gens guéris. C'est parce qu'il ne pouvait pas faire ça. Il pouvait. Mais il avait un travail à faire, montrer le chemin, indiquer qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie. Et maintenant, continuez, je suis avec vous. Paul, qui est le tout premier grand apôtre, après l'élévation de Jésus-Christ, opère un niveau de miracle que les disciples, les apôtres, qui ont marché avec Jésus-Christ, n'ont pas fait. Paul était en mission, les pierres étaient encore vivants, ils se connaissaient. Ils se sont rencontrés, ils ont débattu de beaucoup de choses dans la marche avec Dieu.
Mais Paul était à un niveau supérieur. Preuve qu'après Jésus-Christ, le service à Dieu est perfectionné. Il est amélioré en puissance, en qualité, en intensité, en densité. L'amène là, il a la grippe. Quand l'Esprit Saint me lance dans la démonstration comme ça, il faut nous encourager. Lui aussi, il a besoin d'encouragement, puisque c'est un esprit qui est sensible à tout ça. Il aime qu'on l'aime. Vous ne savez pas que Dieu a besoin d'être aimé. Donc, il n'y a que vous qui avez besoin d'être aimé. Secret des secrets. Dieu, je vous dis ça aujourd'hui, et n'oubliez jamais ça, n'oubliez jamais que je vous l'ai dit. Dieu aime qu'on le désire. Vous avez compris? Il aime être désiré. Il a besoin d'être aimé. Mais les gens qui ne savent pas, vous appelez ça ici quoi, à Talakou? Qui vous fait la Talakou à Dieu? Mais regardez le comportement humain que vous avez là, c'est quand quelqu'un te fait les louanges, tu es content. Vous croyez que lui n'a pas les mêmes sentiments que nous, encore d'où? Si nous sommes à ton image et à ta ressemblance, si on aime aussi les bonnes paroles, il aime ça. Ouais, moi aussi, je suis important. Oh, on m'aime aussi. Donc il est plus jaloux que nous tous. Preuve ultime justement du fait qu'il a besoin d'être aimé et qu'il veut être désiré. Qu'est-ce que vous croyez? Vraiment, le truc, ça me montre le secret. Le secret de la repentance, ça fait quoi? Dans la repentance, il y a une clé cachée là-dedans. Ce n'est pas seulement le fait de dire que vraiment, j'ai mal fait, je me détourne du péché. Il y a le fait de montrer à Dieu que tu le désires. Applaudissez d'abord pour les secrets. Qu'il me soit permis de vous mettre les points sur les i. Simplification. La relation à Dieu est une relation d'amour. Écris ça en rouge dans ton bloc-notes. La relation à Dieu est une relation d'amour. Et les enfants, c'est... On ne vous a pas dit. C'est une relation d'amour.
Oui, Michael. Ce que le Père regarde, c'est le fond de nos cœurs. Ce que le Père cherche, ce sont les adorateurs qui l'adorent en esprit. Et en vérité, qui l'adore en esprit, et en vérité.
Merci. Donc vous avez des exemples qui sont nombreux. Comment Dieu choisit des gens, il met son esprit dessus, etc. Donc dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit remplissait la puissance de certaines personnes qui étaient choisies en vue de services particuliers. On le voit dans Exode 3, le verset 9 à 10. L'Esprit du Seigneur est descendu sur plusieurs juges d'ailleurs. Comme on l'appelle Othniel, Gédéon, Jephthé, Samson, etc. Donc vous allez voir dans tous ces passages, en lisant juste le verset chapitre 14, verset 5 à 6, vous allez voir Juge 6, vous allez voir Juge 3, vous allez le voir Juge 11, vous allez le voir dans les chapitres globalement. Ces exemples sont la démonstration du principe constant que Dieu suit. Lorsqu'il choisit un homme comme instrument pour sa gloire, il le revêt toujours de son esprit. Vous comprenez ce qu'il dit? Parce qu'il y a des gens qui disent que Dieu les a choisis, mais on ne sent pas Dieu chez eux. C'est quand même inquiétant. Hein? Si Dieu t'a choisi, on ne sent pas Dieu chez toi. C'est comment passe-t-il? Laisse-moi d'abord, regarde, je fume d'abord un coup là. Hein?
Tu quoi? Hein? Il faut te demander si l'Esprit Saint n'a pas encore combattu la cigarette chez lui. Bien, tu trouves un pasteur très concentré sur Black le quoi? Ouais. Le Black le blanc, à un autre niveau. Tu lui demandes que je dis, hein. Pasteur, je trouve un temps pas dit que le truc là c'est un tueur d'enfion. Bah oui. Vous voyez un homme de Dieu qui est en train de boire l'alcool, la brute comme ça là. Il faut se poser des questions sérieuses sur son cas. L'alcool est un tueur d'esprit. Il attaque l'ancien. Ah, vous ne saviez pas.
Quand vous voyez que nous, on est vite ça parce qu'on est...
Oui, d'accord, ça m'a trouvé que je n'aime même pas la bière. Je trouve que la bière en est. Étant plus jeune, ça fait au moins 15 ans, quand il a goûté la bière, dis donc, si ça n'est pas bon dans la bouche. J'ai forcé une, deux fois, il y a peut-être 10 ans même, on ne passait pas. Parce qu'il n'y avait pas l'eau. C'était de passer, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas l'eau. Il n'y avait que la bière, j'ai avalé la bière. C'est un tiers d'ancien, on ne pouvait pas grandir spirituellement en buvant la bière. Non, c'est pas possible. La bière, ça tape à l'esprit. Je passe par là. Mais vous donne les secrets, qu'est-ce que vous croyez? Vous êtes les piliers de ce ministère.
Amen.
Voilà. Donc c'est comme ça. Il y avait également, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, cette conscience du fait que Dieu voulait conduire l'individu dans une vie droite et juste. David témoigne d'ailleurs de ça. Quand vous lisez le psaume 51, le psaume 143, vous voyez toujours que il y a une préoccupation là-dedans, particulièrement dans le 51 de 12 à 15, c'est la vie de justice, la droiture en Dieu. Le 143 verset 10 a aussi cette préoccupation. Et ça, pour moi, David demande à l'Esprit de Dieu de l'aider à être parfait. De façon synthétique, disons ça comme ça. Aide-moi à être parfait. Aide-moi à m'aligner selon tes voies. Et ce sera tel esprit. On peut vous aller lire ça tranquillement. Je vais avancer. Le peuple de Dieu, qui suivait sa propre voix au lieu d'écouter les instruments divins, en fait, qui refusait en réalité de suivre la voie de l'esprit, il a souvent vécu des tourments. On peut lire Genèse 16, le verset 2. Vous allez voir ça dans l'esprit de Genèse 16, verset 2. Ceux qui ne réussissaient pas à vivre selon l'esprit de Dieu, subissaient inévitablement une forme de jugement divin. Bon, si vous voulez voir ce genre d'esprit de jugement divin, Nombre 14, 29, Deutéronome 1, 26. Nombre 14, 29, Deutéronome 1, 26. Il faut aussi remarquer que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne descend et ne repose que sur certains individus, en rendant apte au service ou à la prophétie. On n'assiste jamais à une effusion de l'Esprit sur l'ensemble du peuple. Pourquoi on vient maintenant sur la question de l'effusion de l'Esprit? Parce que je veux finir mon propos par les promesses de pleine puissance de l'Esprit Saint. Mais il faudrait, avant de finir, qu'on voit quelque chose qui est prévu depuis l'Ancien Testament, mais que nous vivons déjà ici. Et ça va être une réplique que vous allez donner aux gens qui disent que l'Esprit de Dieu ne parle plus. Vous rencontrez beaucoup de gens qui disent que l'Esprit de Dieu parlait seulement à l'époque, n'est-ce pas? Alors, il ne parle plus. Lisons ensemble Joël 2. Joël 2, le verset 28 à 29. Joël 2, verset 28 à 29. On peut même lire aussi Acte 2, verset 4. Acte 2, verset 4. On peut aussi lire Acte 2, le verset 16 à 18. Donc, lisez les trois là. Joël 2, 28 à 29. Acte 2, verset 4. Acte 2, verset 16 à 18. Mettez-le à le micro.
Joël 2, verset 28 à 29. Après cela, je répandrai mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen.
Amen. Ces jours-là qui sont les jours de la fin, Dieu dit qu'il répandra son esprit sur les jeunes, les vieillards. Les gens auront des songes et ils prophétiseront. Nous y sommes déjà.
Vous n'avez pas les visions. Vous ne prophétisez pas. Pourquoi on vient vous dire que Dieu ne parle pas? Tenez bien la parole là, c'est un argument froid et dur. Qu'on peut même retrouver dans le Nouveau Testament. Lisons d'abord l'esprit de Acte 2, verset 4. Et ensuite Acte 2, verset 16 à 18. Dis-moi si.
Acte 2, verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 16 à 18. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répondrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen.
Vous voyez que le contenu de Joël 2, le verset 28 à 29, revient à Actes des Apôtres 2, le verset 16 à 18. Vous avez donc des références bibliques pour contrer les gens qui vous disent que l'Esprit de Dieu ne parle plus. Quand vous avez des débats, parce que vous ne pouvez pas ne pas débattre, si vous êtes des évangélistes, d'une manière ou d'une autre, vous devez avoir les références bibliques pour argumenter. On a vu un passage ici dernièrement qui disait qu'il faut évangéliser en tout temps, en tout lieu. Si on sent favorable ou, hein, voilà. Il y a des gens qui vont dire que, dis donc, si vous faites les matalas, vous me racontez quoi? Ici, là, on ne parle pas de Jésus. Ah bon? Bien d'autres disent que, dis donc, ici, là, laissez-moi ma Guinée. Je ne vais pas parler de Jésus. Là où quelqu'un parle, argument, c'est laisse-moi ma Guinée. Tu lui sors Jésus, là-dessus. Là même, là où il parle de sa Guinée. Il dit que repends-toi. Il va te regarder comme ça, il dit que oui. Il dit que repends-toi. Dieu veut que tu sortes de la souffrance. Tant que tu ne vois pas que tu es en enfer, Dieu veut que tu sortes de la souffrance. Regarde les problèmes que tu as, les humiliations que tu subis, les déceptions. Tu ne veux pas, tu n'en as pas ras le bol de la vie là. Quand tu penses que c'est là où tu devais être à l'heure, c'est là où tu es là. Ils sont souvent jeunes, mais déjà guidés. Tu les trouves assis là, ils ont rempli deux tables de bière. Et trois quarts des biais sont déjà vides et ils se sentent puissants. Leur puissance réside dans la sanctité de Dieu qu'ils ont pu boire en 3 heures de temps. Je passais quelque part hier, je suis tombé sur des officiers de l'armée, dont un sous-officier. Il voit comment tout le monde le salue avec déférence, respect. Comme il est devant sa bière qu'il a rasé au quart, il me parle très fort. En ce temps, je le regardais à les yeux de l'esprit, ce pauvre homme. Regardez là où tu es attaché. Il faut toujours évangéliser. Toujours. Et il faut toujours comprendre que l'Esprit de Dieu est avec vous. Nous sommes dans ce temps où Dieu a déjà répandu son esprit sur toute chair. Et que cela s'accomplisse encore plus fortement dans ce ministère.
Amen.
Nous sommes dans la dernière partie de cet enseignement qui concerne la promesse de la pleine puissance de l'Esprit. L'Ancien Testament anticipe sur la venue de l'âge de l'Esprit, c'est-à-dire l'ère du Nouveau Testament. Premièrement, à plusieurs occasions, les prophètes ont annoncé le rôle que jouerait l'Esprit dans la vie du Messie à l'avenir. Nous avons déjà eu un enseignement ici sur Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Ésaïe a mis particulièrement en exergue le fait que le futur roi et serviteur de Dieu sera un homme sur lequel l'Esprit de Dieu reposerait d'une manière particulière. Et cela est vrai, vous avez lu ça, dans Ésaïe 61, verset 1 à 3. On a déjà lu ça. Ésaïe 61, verset 1 à 3. Je peux vous ajouter la référence. Ésaïe 11, le verset 1 à 2. On reviendra là-dessus sur l'enseignement qui parle de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. Mais vous donnez les références maintenant, c'est bien. Ésaïe 61, verset 1 à 3. Ésaïe 11, verset 1 à 2, Ésaïe 42, verset 1. Quand Jésus-Christ a fait la lecture du texte d'Ésaïe 61, verset 1 à 3, dans la synagogue de Nazareth, dans son village, il termina par ces paroles. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Vous pouvez vérifier cela dans Luc 4, le verset 21. D'autres prophéties de l'Ancien Testament
ont annoncé l'époque où l'effusion de l'Esprit serait répandue sur l'ensemble du peuple de Dieu. L'un des principaux textes est celui de Joël que nous allons lire, Joël 2, versets 28 à 29, qui fut d'ailleurs cité par Pierre le jour de la Pentecôte. Pierre cite ce texte le jour de la Pentecôte, c'est Acte 2, le verset 17 à 18. Acte 2, le verset 17 à 18. On retrouve le même message dans Ésaïe. Ésaïe 32, le verset 15 à 17. Ésaïe 44, mais c'est d'abord 32, 15 à 17. Ésaïe 44, le verset 3 à 5. Ésaïe 59, le verset 20 à 21. Et pratiquement, vous l'avez cherché dans Ézéchiel. Ézéchiel 11, le verset 19 à 20. Ézéchiel 36, le verset 26 à 27. Ézéchiel 37, le verset 14. Donc, je relis tous ces passages. Ésaïe 31, le verset 15 à 17. Ésaïe 44, le verset 3 à 5. Ésaïe 59, le verset 20 à 21. Ézéchiel 11, le verset 19 à 20. Ézéchiel 36, le verset 26 à 27. Ézéchiel 34, 37, le verset 14. Il y a même encore Ézéchiel 39, le verset 29. Donc, Dieu a promis que lorsque la vie et la puissance de son esprit descendraient sur son peuple, il sera en mesure de prophétiser, d'avoir des visions et des songes. Des songes prophétiques, même pas des songes ordinaires. Avoir des visions et des songes prophétiques. De vivre dans l'obéissance, la sainteté et la justice. Et de témoigner avec une grande puissance. Ça, c'est ce que Dieu a prévu. C'est pourquoi vous faites des témoignages. Ainsi, les prophètes de l'Ancien Testament ont vu et annoncé l'âge messianique au cours duquel l'effusion et la plénitude du Saint-Esprit se répandraient sur toute l'humanité. Cet âge s'est manifesté le jour de la Pentecôte, soit 10 jours après l'ascension de Jésus, et a vu une moisson d'âmes particulièrement importante. Je voudrais qu'on se lève pour lire le dernier passage. Peut-on nous lire? On a lu ensemble déjà Joël 2 de 28 à 29. Est-ce que vous pouvez regarder toujours Joël là? Lisez 32 là-dedans. Joël 2, verset 32.
Joël 2, verset 32. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen.
Amen. Très important de le savoir. Il n'y a pas que l'effusion de l'Esprit de Dieu. On a la grâce que celui qui l'appelle sera sauvé. Est-ce qu'on peut lire Acte 2, le verset 41, et Acte 4, le verset 4, Acte 2, 41, Acte 4, verset 4.
Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et, en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Amen.
Amen. Acte 4, le verset 4, et Acte 13, verset 44.
Acte 4, le verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000.
Et lisez encore Acte 13, le verset 48 jusqu'à 49.
Acte 13, au verset 48 à 49. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Amen.
Amen. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens, des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je reprendrai mon esprit. Que cette parole s'accomplisse maintenant.
Amen.
Que le Seigneur Jésus-Christ se glorifie abondamment dans nos vies.
Amen.
Que le Seigneur Jésus-Christ remplisse nos cœurs de son Esprit Saint.
Amen.
Que le Seigneur Jésus-Christ remplisse nos vies de sa lumière.
Amen.
Que le Seigneur Jésus-Christ remplisse nos vies de son feu.
Amen.
Que le Père éternel se glorifie abondamment dans tous les compartiments de nos vies.
Amen.
Qu'il fasse descendre ici et maintenant une onction spéciale qui scelle cet enseignement dans nos cœurs et le rend vivant dans tous les compartiments de nos vies.
Amen.
Je bénis l'Éternel parce qu'il a décidé que cet enseignement ait lieu. Je bénis l'Éternel parce qu'il vous encourage chacun à venir. Je bénis l'Éternel parce que vous répondez à l'invitation du Père. Et je bénis l'Éternel parce que dans le silence, dans la discrétion, ici, maintenant et aujourd'hui, vous avez reçu encore et encore des bénédictions. Vous avez reçu des grâces spéciales, vous avez reçu des onctions, vous avez reçu d'autres niveaux de délivrance, et vous avez reçu des solutions à des problèmes.
Amen.
Je bénis abondamment l'Éternel parce qu'il est en train de vous remplir. Plus il vous vide de ce qui n'est pas de lui, plus il vous remplit de ce qui est de lui.
Amen.
Et je bénis l'Éternel parce que nous avons la grâce de connaître l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit Saint, qui est le principal intercesseur, qui est celui qui nous enseigne à marcher avec Jésus-Christ, qui nous met dans la connexion à l'Esprit Saint. Avec Jésus-Christ, qui nous met dans la connexion avec le Père éternel, à travers Jésus-Christ, qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie.
Amen.